Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Bonjour, l'invité de cet éclairage, il s'agit de Freddy Etan, ancien ambassadeur d'Israël, qui aujourd'hui est directeur des affaires européennes à l'Institut des affaires publiques à Jérusalem, et qui a publié aux éditions Alphée Jean-Paul Bertrand « Les 18 qui ont fait Israël ». Évidemment, cela s'inscrit dans le cadre du 60e anniversaire de la fondation de l'État d'Israël, c'était en 1948, et cela nous donne l'occasion de nous projeter à travers l'histoire de cet État à la destinée si particulière et à l'actualité aussi si tourmentée. Alors avec vous, Freddy Etan, nous allons quelque peu explorer à la fois les rivages de l'actualité, de ce qui fait parler d'Israël, et puis bien sûr, de quelques personnalités parmi ces 18 qui vous ont particulièrement marqué et que vous avez côtoyé de près.
Une grande partie, oui. Effectivement, il y a certains que je n'ai pas connus. Je suis né plus tard, je suis assez jeune, pour ne pas, hélas, connaître toutes ces personnalités qui sont entrées dans la légende. Je dirais, j'ai eu du mal, j'ai eu l'embarras du choix pour choisir 18 personnalités. Vous savez, j'en avais une centaine et donc j'ai barré certains.
Et, 18 est-il un nombre symbolique ?
Si. Il est symbolique parce que, d'abord, d'une part, c'est la tradition juive, c'est la prière quotidienne, donc, avec ses 18 bénédictions. Et dans la Kabbale aussi, la valeur numérique du chiffre 18 est Chai, qui veut dire vivant. Et donc, il exprime la pérennité donc du peuple juif, et c'est pour ça que j'ai choisi donc ces 18. Vous savez, le choix était difficile, et j'ai parlé surtout de la génération qu'on appelle la génération de 48. C'est dans les 18, il y en a 15, hélas, qui sont morts, et deux sont dans le coma, Sharon et Shamir. Il n'y a que Peres, notre président de l'État, qui est active, et je dirais même très active, à l'âge de 84 ans. Et donc, là, je pense que j'ai essayé, que j'ai connu évidemment Shimon Peres, j'ai essayé d'amener au lecteur et de brosser un tableau assez, un dossier complet, si vous voulez, de l'histoire d'Israël, non seulement du monde politique et militaire, mais aussi du monde culturel, scientifique, social. Et tous ont marqué de leur empreinte cette histoire.
Alors, sur ces 18, quels sont ceux, justement, que vous avez côtoyés de plus près ?
Écoutez, quand j'étais jeune, j'étais très jeune, j'ai côtoyé Ben Gurion. Mon père était très actif dans son parti qu'il avait créé, le parti Rafi, en 1965. J'étais jeune et je l'ai côtoyé. Et un jour, Ben Gurion me dit « Jeune homme, que veux-tu devenir quand tu seras grand ?» Alors, je lui réponds « Eh ben, journaliste, monsieur. » Alors, il m'a dit « Eh ben... » Très bien, c'est un beau métier, mais sache dire toujours la vérité. Donc, c'est une anecdote qui m'a marqué. Et donc, c'est important pour moi, l'honnêteté intellectuelle d'une part, le savoir, mais aussi essayer d'expliquer la cause juste des Israéliens, parfois mal comprise. Et donc, à travers les livres, à travers les images, à travers les conversations, j'essaye par ce moyen, c'est la seule arme que j'ai, ce sont les mots et donc et la parole. Et donc j'essaye avec cela de transmettre ces messages.
Qui dirige aujourd'hui Israël si Ariel Sharon est encore dans le coma ? Dont on parle très peu d'ailleurs. On a fort peu de nouvelles de lui dans les médias.
Oui, c'est vrai. Sharon est dans un coma irréversible. Et là, il pourrait être dans ce coma encore plusieurs années. J'ai connu un ami ambassadeur qui était dans le coma pendant plus de 21 ans. Donc, cela est triste. Mais, vous savez, aujourd'hui, je parle de 18 personnalités qui ont marqué Israël. Je dirais, ce sont des géants. Il y a deux grandes différences aujourd'hui entre les hommes d'État, d'une part, et les politiciens. Les hommes d'État regardent l'avenir, regardent l'intérêt du peuple et l'intérêt de l'État. Et les politiciens regardent ou cherchent chaque matin combien de points ils ont gagnés dans les sondages. Donc, c'est là la différence. Et je pense que parmi ces 18, tous sont effectivement des hommes d'État. Hélas, aujourd'hui, il y a une carence dans le leadership, non seulement en Israël, mais je dirais dans le monde entier.
Donc là, c'est une réflexion plutôt sur le sens même de la politique et de la cause que l'on défend. Est-ce que vous seriez tenté de dire, puisque vous dites qu'en Israël, il y a une carence dans la façon de diriger, que la défense de la cause s'est quelque peu atténuée, paradoxalement, 60 ans après les fondations ?
Si, vous savez, tout d'abord, il faut dire que le peuple juif qui a marché pendant 2000 ans vers une destination inconnue et qui était privé d'espace et marché depuis la nuit des temps à la poursuite d'un foyer, a trouvé en 48 donc un foyer. Il avait brisé l'esclavage, je dirais, de l'Égypte. Il était exilé à Babylone. Il était chassé d'Espagne et a fui l'Inquisition. Et en 48, il retrouve sa propre patrie. Mais voilà que l'environnement était hostile.
Ce qui n'était pas évident en 48. On pensait aussi à Madagascar ou à l'Argentine. Il y a eu des hypothèses multiples.
Oui, on pensait à l'Ouganda,
voilà.
Et donc, les congrès, vous savez, les congrès sionistes depuis 1896. D'ailleurs, le congrès sioniste a été créé juste après l'affaire Dreyfus. Donc, ici même, à Paris, Théodore Herzl a écrit, ici, à Paris, l'État juif. Donc, il était important pour nous. Donc, le mouvement sioniste, le mouvement qui a été créé par Herzl, était pour la première fois un mouvement de libération nationale. Et c'était la première fois que les Juifs qui voyaient en Jérusalem, l'an prochain à Jérusalem, qui voyaient Jérusalem comme une capitale spirituelle, essayent par tous les moyens d'acquérir donc un foyer national. Et c'est en 1917, effectivement, que les Britanniques accordent un foyer national par la déclaration Balfour.
La fameuse déclaration Balfour. Est-ce qu'on peut-être, Freddy Etan, justement pour expliquer l'histoire, parce que ce n'est pas sûr que les jeunes générations gardent en mémoire ces dates clés du cheminement qui a conduit vers l'État d'Israël. Cette déclaration Balfour, 1917, pourquoi 1917 ? Pourquoi cette date ? Écoutez, alors que l'Europe se déchire ?
Oui, c'est vrai, nous sommes en pleine guerre mondiale, première guerre mondiale, on se souvient. 1917, c'est le général Allenby arrive à Jérusalem, libère donc Jérusalem, et le 2 novembre, donc, Balfour écrit une lettre. Il n'y avait pas d'autorité juive ou palestinienne ou israélienne à l'époque. Donc, il adresse une lettre au baron de Rothschild, donc Edmond de Rothschild, de la famille britannique des Rothschild, et lui dit, effectivement, pour la première fois, donc, nous allons accorder un foyer national aux Juifs. C'est un événement historique très important qui change complètement de cap, qui change complètement l'essence même de l'existence du peuple juif, d'un peuple errant à un peuple fixe. On était des locataires pendant 2000 ans. On redevient des propriétaires. Et 60 ans après, on a du mal encore à être propriétaire.
Donc 1917, est-ce que ça fut une date si importante que cela ? Et pourquoi a-t-il fallu attendre 1948 ?
Oui, parce que, vous savez, il y a eu un mandat britannique pendant ces années-là, et puis, hélas, la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1939, donc, la montée d'Hitler, du nazisme et la Shoah a exterminé 6 millions de Juifs. Il y a eu cette fuite, et il y a eu, d'une part, les Israéliens, les Juifs, de toutes parts, voulaient à tout prix arriver dans cette Palestine, mais cette Palestine, en arrivant en Palestine, ils ont été refoulés par les Britanniques. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu, de la part des Britanniques, lors de ce mandat, plusieurs, ce qu'on appelle des livres blancs, qui avaient interdit, donc, il y avait un quota pour l'immigration. C'était très difficile pour les Juifs rescapés de la Shoah, arriver en Palestine et refouler juste après. Donc, vous savez, le fameux Exodus, donc le bateau Exodus, il y a eu d'autres aventures qui ont vraiment frappé et qui ont mis les Juifs d'un continent à un continent, traversés des mers, dans les tempêtes et partout. Et donc, ils ont essayé par tous les moyens. Et en arrivant en Israël, dans cette Palestine, en 48, il y a eu ce fameux partage, donc, d'abord 47, puisque en novembre 47, le 29 novembre 47, c'est le partage de la Palestine, puisqu'on partage la Palestine en un État juif et un État arabe. Les Arabes, hélas, refusent ce partage, et on reparle aujourd'hui de ce partage, vous savez, avec les Palestiniens à Annapolis et dans d'autres cadres.
Est-ce à dire que l'histoire aurait connu un autre cours s'ils avaient accepté ce partage ?
Sans doute, parce que si l'histoire, si les Palestiniens n'ont pas raté ce rendez-vous de l'histoire en 48, eh ben on ne serait pas là aujourd'hui. Il y aurait eu deux États, un palestinien et un État juif.
Alors j'ai une photo sous les yeux, celle de Moshe Dayan, le général Borgne. C'est une photo très célèbre, bien sûr, hein, celle que vous avez reprise. Est-ce que c'est l'une des personnalités ? Est-ce qu'il y a, au sein des personnalités que vous avez sélectionnées, différentes catégories ? Est-ce qu'il y a d'un côté, par exemple, les militaires, les politiques, les personnes plus intellectuelles et d'autres plus pratiques, si je puis dire, plus opérationnelles ?
Oui, sans doute. Vous savez, les militaires, il y en a trois, Dayan, Rabin et Sharon, ces trois généraux. Sharon n'a jamais été chef d'état-major pour ses opinions politiques. Il était à droite à l'époque et on lui a refusé donc ce poste suprême de Tsahal. Mais il est devenu plus tard, vous savez, en 1982, il est devenu ministre de la Défense. Et il est devenu, après plus tard, Premier ministre. Donc, il a sauté plusieurs et assez difficile. Et il a réussi à arriver à la tête de l'État. Et on le sait, avec brio, sur certaines décisions qui ont été prises. Le général qui devient non seulement un stratège militaire qui était depuis longtemps, mais un stratège diplomate. Et là, tous ces généraux-là, Dayan, Rabin et Sharon, qui ont été des stratèges de la guerre de six jours, Dayan même de 56, donc la campagne de Suez, celle qui a été, vous savez, l'opération mousquetaire, qui a été celle qu'on a menée avec les Français et les Britanniques, et qui était, hélas, un fiasco. Mais dans ce cas-là, il faut dire que les stratèges, les militaires qui ont connu des champs de bataille, ont compris que, effectivement, ce n'est pas dans les champs de bataille qu'on peut arriver à un compromis ou arriver à imposer à l'ennemi un territoire et aussi une autodétermination. Donc, il faut trouver, effectivement, dans le dialogue, dans la diplomatie, dans les arcanes de la diplomatie, cette négociation. Et c'est là qui est important. Donc, le diplomate qui était avant un militaire devient un homme d'État qui a bien compris que ce n'est pas dans sur le champ de bataille.
Mais c'est bien au départ au sein de l'armée. C'est une caractéristique d'un État comme celui-ci qui s'est forgé dans l'adversité. C'est au sein de l'armée que les politiques viennent puiser les grandes figures.
Évidemment, la majorité des généraux ont conduit Israël non seulement vers les victoires. Vous savez, on a connu cette guerre en Israël. Je ne parle pas d'autres guerres comme par exemple la guerre d'usure avec l'Égypte. Je ne parle pas seulement de l'Intifada. Je parle des grandes guerres depuis 48. Il y a eu 48, il y a eu 56, il y a eu 67, il y a eu 73, il y a eu 82. Et il y a eu des opérations militaires, des opérations incroyables comme Entebbe, la prise d'otages. Il y a eu un changement. Vous savez, ce n'est plus aujourd'hui la guerre du Liban qu'on a connue au mois de juillet 2005. Donc, il est important pour nous de connaître que la situation, la donne géopolitique a changé depuis. C'est-à-dire, nous nous trouvons face à de nouvelles menaces. Ce n'est plus un combat interarmé entre des militaires, entre des soldats. Ça devient aujourd'hui des militaires, des soldats, une armée ou une défense même passive, contre un ennemi qu'il n'a, hélas, ni calendrier, ni dans le temps et dans l'espace. Et c'est la menace terroriste. Et donc, ce fléau qui frappe aujourd'hui nous met dans une situation difficile et compliquée et complexe, et non seulement vis-à-vis d'Israël, mais la menace, par exemple, l'étendard chiite qui a des satellites à Gaza avec le Hamas et au Hezbollah au sud du Liban est une menace pesante, omniprésente pour Israël, non seulement pour Israël, mais aussi pour tout le Proche-Orient, y compris les pays arabes modérés.
De quel événement précisément vous inspirez-vous pour dire que la nature de la menace a changé et qu'on est passé de guerre de mouvement stratégique à une guerre contre le terrorisme ? Parce que la dernière opération menée par Israël au Liban est somme toute assez récente. Hein.
Oui, hélas, vous savez, le terrorisme a débuté dans les années 70. Il y a eu, vous savez, des prises d'otages, il y a eu des attentats, kidnappé plusieurs personnes. Il y a eu, depuis, je dirais, depuis la crise énergétique suite à la guerre de Kippour, et avant même, et après. Et il y a eu donc ce terrorisme. Je me souviens évidemment de cette prise d'otage à Vienne, ceux qui étaient les producteurs de l'OPEP. Il y avait beaucoup d'attentats spectaculaires.
Donc c'est la guerre de Kippour qui a en quelque sorte marqué ce dernier événement de guerre stratégique.
Oui, mais je dirais parce que la guerre de Kippour a changé, parce qu'il y a eu des défaillants dans la guerre de Kippour. Israël a gagné militairement la guerre, mais a perdu sur le plan moral. Et elle a perdu parce que la société israélienne, c'était un tremblement de terre dans la société israélienne. Et donc ce changement de cap a tout changé dans le sens, non seulement au sein même de la société, mais aussi vis-à-vis des pays arabes. Et on a eu plus tard, effectivement, après la guerre de Kippour, on a eu ce qu'on appelle les accords de désengagement avec la Syrie et l'Égypte. Et puis, on a eu cette visite historique le 19 novembre, donc 1977, la grande visite spectaculaire et historique de Anwar el-Sadat à Jérusalem.
Freddy Ethan, est-ce que l'on peut, parce qu'il y a beaucoup de sujets naturellement, dès lors qu'on aborde les questions liées au Proche-Orient, est-ce que l'on peut peut-être familiariser ceux qui nous écoutent avec ces figures que vous avez sélectionnées, les 18? Alors par exemple Moshe Dayan, dont l'on a parlé, ou bien Golda Meir, ou bien d'autres que vous avez choisis, et vous allez nous dire pourquoi est-ce qu'il y en a certaines petites sélections que l'on pourrait en quelque sorte survoler?
Oui, écoutez, j'ai choisi des militaires, j'ai choisi des généraux, mais j'ai aussi choisi un savant qui est Yuval Naaman, par exemple, et qui a été l'homme qui, à l'armée, et plus tard, a créé ce qu'on appelle la commission pour les recherches spatiales. Et donc, c'est lui qui a envoyé le premier astronaute israélien, pour vous dire. Donc, Israël était, depuis 1961, a envoyé déjà dans l'espace un premier satellite de télécommunication, déjà en 1961. Donc Israël, qui n'avait que 9 ans, a pu effectivement envoyer ce satellite. Plus tard, on est dans la technologie de pointe. Et Israël a construit aussi 2 centrales nucléaires, une grâce à la France. Et donc ceci, aujourd'hui, Israël, qui a, sur le plan de la recherche, investi plus de 5%. Donc, pour la recherche, ce qui est énorme, ce qui est important par rapport aux pays occidentaux et qui fait tout pour la recherche technologique et la recherche non seulement de l'espace et aussi sur le plan essayer le high-tech qui est là au cœur même de l'économie israélienne, pour nous, c'est très important. Israël, ce n'est pas seulement le conflit israélo-palestinien. Israël, c'est autre chose. Israël aussi, c'est une société qui est venue, qui a été construite par 77 pays, de par des continents qui arrivent, qui ont immigré de partout et qui ont créé une seule langue. Et donc, il y a eu, parmi ces 18, il y a celui qui a créé donc l'hébreu moderne. Et vous savez, l'hébreu est bizarre et compliqué. Hein, c'est une langue savante et liturgique qui s'écrit de droite à gauche et qui ne comporte que des consonnes, soit 22 lettres. Donc, à chaque fois que certaines lettres peuvent être changées, distinctes, si on ne comprend pas, puisqu'il n'y a pas de voyelle, et à chaque fois, on peut échanger de valeurs comme le B ou le V ou le P ou le F. Donc, ce monsieur qui a fait ses entrées à la fac de médecine à Paris, ici, je parle de Eliezer Ben Yehuda, et que l'UNESCO, d'ailleurs, pas plus tard que récemment, donc, a effectivement décerné à Eliezer Ben Yehuda, donc, a reconnu son héritage pour la renaissance de l'hébreu. C'est extraordinaire. Je vous donne un exemple. Il a parlé, donc, il fallait créer le langage de la Bible est un langage archaïque, est un langage il n'y avait pas ni télévision, ni Internet, ni rien à l'époque. Donc, il fallait trouver des mots. Et je vous donne un petit exemple. Par exemple, le mot avion en français, pour dire avion en hébreu, eh ben, il a trouvé le mot aviron. Pour trouver, par exemple, le mot dictionnaire, et il a trouvé le mot milon, qui veut dire un million de mots. Donc, tout cela a prouvé qu'effectivement, il fallait reconstruire toute une société et parler une seule et unique langue.
On a bien saisi, Freddy Ethan, que ce que vous avez voulu faire à travers cet ouvrage, ce n'est pas un ouvrage de stratégie, de géopolitique, d'histoire même. C'est un ouvrage de synthèse sur des personnalités qui, à leur manière et de manière bien différente, ont contribué à la création de l'État d'Israël et à le faire exister. Donc ça, c'est l'important, en plus sous la coupole, de l'avoir souligné ici à l'Académie. ce travail linguistique considérable que vous venez d'expliquer par le biais d'Eliezer Ben Yehuda, qui est cité donc dans votre ouvrage, qui est l'une de ces 18 personnalités. On se quitte quelques instants. À tout de suite, Freddy Ethan, pour les 18 qui ont fait Israël.
Il a eu pour amis et modèles Pablo Picasso et Jean Cocteau. Il s'est passionné pour la corrida, les nus, les gitans et les étangs. Il est le premier photographe à entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Lucien Clergue est venu dans notre studio pour retracer son parcours dans une émission en habit vert. Cette émission est disponible sur Canal Académie par le moteur de recherche en tapant Clergue ou en passant par la liste des académiciens.
Éclairage avec pour invité Freddy Ethan, ancien ambassadeur d'Israël, qui aujourd'hui est directeur des affaires européennes à l'Institut des affaires publiques à Jérusalem, un organisme d'État qui a été officier de presse à l'état-major à Tsahal, qui a une triple carrière, donc universitaire, journalistique et diplomatique, ce qui vous donne un regard tout à fait riche sur l'État d'Israël, sur lequel vous avez écrit à travers 18 personnalités. Vous avez rappelé la portée symbolique du nombre 18, les 18 qui ont fait Israël. Portrait et témoignages, c'est la collection aux éditions Alphée Jean-Paul Bertrand. Freddy Ethan, merci donc d'être avec nous, puisque, faut-il le rappeler, Israël est à l'honneur tout au long de l'année 2008, 60 ans après la fondation de l'État d'Israël. Est-ce que l'on peut revenir, et là je cite peut-être un article que vous avez publié dans le Jérusalem Post, puisque vous êtes, évidemment, puisque vous exprimez ici même, francophone, et que vous avez donc un regard qui est tout à fait, je dirais, pertinent sur les relations entre la France et Israël. C'est l'occasion, depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, de faire sans doute un point. Vous vous plaidez pour un rapprochement entre la France et Israël, que la France joue un rôle peut-être plus accru, et qu'il n'y ait pas que les États-Unis comme juge de paix, si je puis dire, au Proche-Orient.
Oui, j'ai suivi les relations franco-israéliennes depuis que j'étais même correspondant à Paris de la radio et la télévision israélienne dans les années 70. Donc j'ai suivi la période de Pompidou et la période de Giscard et de Mitterrand plus tard, et j'ai fait mes recherches concernant la France et Israël. J'ai intitulé un premier livre d'ailleurs « David et Marianne » parce que j'ai pensé que entre la France et Israël, c'est comme un couple amoureux qui parfois se trouve en discussion, parfois il y a des scènes de ménage et on casse la vaisselle, mais on divorce pas. Et donc c'est là l'importance de ces relations entre Paris et Jérusalem. Vous savez, les relations franco-israéliennes depuis l'anathème gaulien, depuis 1967, ont évolué. Il y a eu des hauts et des bas, et à chaque fois, on a tourné une page. Je crois qu'aujourd'hui...
L'anathème gaulien, c'est le peuple à la nucrède ?
Oui, le peuple juif qui est dominateur, c'est aussi l'embargo, c'est aussi plusieurs décisions au moment où Israël, je vous rappelle, en 1967, regardait la mort en face. Donc, il était important pour nous d'avoir des liens concrets avec la France. Et aujourd'hui, la donne a changé. La donne, la menace chiite, la menace iranienne, la menace du terrorisme. Donc, tout cela fait que nous avons un point commun et on peut être avec la France dans le même front face à ces menaces. Et donc, dans l'intérêt de la France, comme dans l'intérêt d'Israël, non seulement les relations bilatérales doivent être beaucoup plus accrues, beaucoup plus importantes, et ils y sont, sur le plan, par exemple, militaire, l'échange, par exemple, aussi entre nos services concernant le renseignement, qui est très important pour contrecarrer les attentats et les intentions donc des terroristes. Vous savez, les terroristes n'ont pas ni d'espace, ni de calendrier, et ni frontières. Donc, ils peuvent agir partout. Donc, l'Europe, au cœur, donc la France, est concernée au premier chef. Et donc, les Israéliens peuvent apporter aussi un soutien. Dans ces relations, nous pensons aussi que, avec Nicolas Sarkozy, il n'y a plus de double jeu, comme avant. Il y a un certain langage qui est limpide, qui est clair, bien qu'il ne, je ne crois pas qu'il faut s'attendre à un changement de la politique française au Proche-Orient. La France a ses intérêts au Proche-Orient. La France est là de toujours avec sa politique du Levant. Elle est là depuis Napoléon. Elle est là depuis toujours avec les mandats en Syrie, au Liban, qui est très cher pour la France. Donc, nous voulons que la France consolide ses, avec le bassin méditerranéen, d'une part, et avec la Syrie, avec d'autres pays proches de la France et chers à la France. Mais d'un autre côté, qu'est aussi comprennent les Israéliens demandent. Ils demandent de vivre en paix, de dialoguer, d'avoir avec nos voisins une coexistence. Et la France peut contribuer. Nous avons vu avec, hélas, plusieurs tentations de changer de régime par la démocratie, mais imposées par la force militaire d'autres régimes. Nous l'avons vu dans les années 60 au Liban, avec un débarquement donc des Marines américains, et ça a échoué. Nous avons nous-mêmes essayé en 1982 de changer de régime au Liban, donc de chasser l'OLP et de créer un nouveau régime avec les chrétiens du Liban. Nous avons échoué. Et aujourd'hui encore, avec l'Amérique, vous le savez, en Irak, on a cru changer de régime. Et on ne peut pas changer de régime par les armes. Nous ne pouvons pas changer d'un régime totalitaire avec sa propre société, ses tribus, cette complexité qui existe dans les sociétés arabes, du jour au lendemain devenir des démocraties. Donc nous sommes dans un environnement hostile et nous pensons que la France peut jouer un rôle pour rééquilibrer cette influence, je dirais, quasi complètement prédominante de la part des États-Unis.
Est-ce que vous voulez dire justement, Freddy Etan, que la France est plus habilitée à concourir au dialogue des cultures que les États-Unis qui utilisent le dialogue des armes, si l'on peut dire?
Oui, je n'emploierai pas ce mot, le dialogue des armes, mais je dirais que la France, l'Europe, est plus proche des Israéliens que des États-Unis. Nous sommes dans le même bassin méditerranéen et je pense que l'idée d'un dialogue euro-méditerranéen dont Israël ferait partie avec les pays du Maghreb, avec les pays sunnites, donc modérés comme la Tunisie, le Maroc et évidemment d'autres pays, y compris l'Algérie et peut-être la Libye, pourquoi pas. Donc dans ce sens-là, nous pensons qu'il est important de dialoguer. Parce que la menace, je le répète, la menace est omniprésente et non seulement contre Israël, mais contre les régimes modérés. Et si la France ne jouera pas un rôle important, un rôle d'influence, car elle connaît ces pays, elle a une certaine influence, elle peut jouer, elle peut faire comprendre aussi qu'Israël a besoin d'avoir une sécurité, d'avoir des assurances, d'avoir des frontières défendables. Et ces frontières défendables sont très, très importantes pour les Israéliens. Et donc, la France peut jouer un rôle important.
Vous dites que l'Europe est plus proche d'Israël que les États-Unis. Ça laisse quand même un peu perplexe parce qu'à plusieurs reprises, quand même, l'Europe s'est prononcée, non pas forcément en faveur des Palestiniens, mais a quand même pris des positions, je dirais au moins de compassion à l'égard des Palestiniens et aussi des mesures directes d'aide, de soutien financier. Alors que les États-Unis ont une politique de suivisme à l'égard d'Israël qui est quand même beaucoup plus nette.
Ça va de soi que nous sommes des alliés des Américains et nous resterons des alliés. Et nous nous réjouissons d'ailleurs que la politique de Sarkozy et de Kouchner est une politique d'atlantisme, donc très proche du côté américain. Et pour nous, c'est important. Donc, celui qui est ami des Américains est ami d'Israël.
Aujourd'hui, les trois se tiennent, si on peut dire.
Exactement. Et d'autre part, comme je dis, proche, l'Europe est proche, non seulement sur le plan géographique, non seulement sur le plan de l'histoire, non seulement depuis les Romains, depuis les Grecs, il y a eu des envahisseurs venaient au Proche-Orient, le berceau donc aussi judéo-chrétien, les croisades. Donc tout cela vient de l'Europe. L'Europe est beaucoup plus proche sur ce sens-là. Elle est proche aussi. Elle est proche aussi sur le plan économique. C'est aujourd'hui, avec les 25 pays européens qui forment une entité importante économique, Israël, l'Europe est le premier partenaire d'Israël. Donc ça aussi, c'est proche et plus important pour nous.
Où en êtes-vous, toujours sous l'aspect diplomatique, des relations entre Israël et l'Iran, la Turquie et l'Éthiopie, qui étaient les trois pays sur lesquels Israël s'appuyait pour contourner la menace arabe.
Écoutez, nous avons toujours de bonnes relations avec la Turquie et la visite récente du président Shimon Peres à Ankara, qui a parlé pour la première fois devant un parlement en hébreu, un parlement turc, fait que ce pays musulman a bien compris qu'on peut être à la fois musulman, avoir un régime musulman, mais aussi être ouvert vis-à-vis des autres et surtout vers les autres religions. La Turquie, sur le plan stratégique, évidemment, a des liens importants avec Israël. Elle est aussi face la charnière, si vous voulez, entre l'Europe et le Proche-Orient. Et depuis toujours, nous avons eu de bonnes relations. Et nous allons resserrer donc ces liens sur le plan économique comme sur le plan militaire et stratégique. Vous savez, les autres pays concernant l'Iran, par exemple, nous avons eu d'excellentes relations avec le Shah d'Iran. Le Shah d'Iran nous a fourni pendant plusieurs années du pétrole. Et nous avons créé même, je dirais, en Iran, des petits kibboutzim. Nous avons créé donc ces fermes agricoles. Nous avons aidé les Iraniens à venir apprendre sur le plan agronomique et autres, sur la médecine. Il y a eu des échanges à l'époque du Shah. Tout a bouleversé en 78, quand, je vous le rappelle d'ailleurs, le Shah d'Iran a été renversé par Khomeini et Khomeini, depuis neuf, le château, donc ici en France, à pas loin de Paris, avait lancé donc ses messages pour créer un État islamique et ce qu'il a fait depuis. Donc, pour nous, l'Iran est devenu une menace, qui était un allié à l'époque, est devenu une menace. Une menace non seulement sur le plan nucléaire, parce que si nous avons toutes les informations qui concernent l'Iran et nous pensons que d'ici une année et demie, c'est le combustible qui pourra créer donc, enrichir cet uranium.
C'est le délai que vous estimez être plausible.
Oui, je pense que fin 2008, début 2009, c'est le délai, je dirais, extrême qui pourrait éventuellement reconduire l'Iran face à cette centrale nucléaire. La différence avec l'Iran et l'Irak concernant le nucléaire, je vous rappelle, concernant l'Irak, vous vous souvenez, il y avait une centrale nucléaire qui s'appelait Ozirak, qu'Israël a détruit, que la France a fabriqué et qui a construit, mais que Israël a détruit en juin 1981. La différence, c'est que en Iran, il y a 20 sites. La majorité sont souterrains. Donc, il est très difficile de contrecarrer et de savoir qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se passe sur ces 20 sites. Donc, le renseignement, la concertation est importante. Mais nous devons, à tout prix, d'abord, mener à bien non seulement des sanctions, faire que la diplomatie gagne avant de prendre une décision fatale, qui serait non seulement fatale pour tout le Proche-Orient, mais comme disait aussi le président Bush, pourrait déclencher une troisième guerre mondiale.
Vous seriez d'avis que la France reste à l'écart de tout cela, qu'elle joue un peu un rôle tampon et laisse les États-Unis y aller seuls, ou bien que Nicolas Sarkozy suive ?
Je pense que Nicolas Sarkozy, en concertation avec les Britanniques et les Américains, peut faire avancer le dossier. Mais je crois qu'il est important aussi d'avoir une cohésion et aussi une diplomatie ferme et cohérente, et non pas de parler de plusieurs voies. Donc, si on peut effectivement appliquer des sanctions économiques et autres dans le cadre de l'ONU, dans le cadre de l'Europe, dans le cadre de l'OTAN, je crois qu'on peut mettre les Iraniens au pied du mur.
Un mot de l'Éthiopie quand même, pays dont on parle peu, mais les liens entre Israël et l'Éthiopie ont été étroits.
Nous avons des juifs éthiopiens, il y a eu ce qu'on appelle les tapis volants, comme dans les Écritures, on est arrivé sur des tapis volants, sur les ailes en Terre Sainte. On a eu depuis toujours avec le fameux Haïlé Selassie, donc l'empereur, des liens aussi étroits avec l'Éthiopie. Mais vous savez, l'Éthiopie a bouleversé, a complètement changé de cap, a changé de régime à plusieurs reprises. On a eu des problèmes avec l'Éthiopie, nous avons eu des relations et puis on a coupé ces relations. Mais je crois que l'importance de ces Juifs, vous savez, qui arrivent de couleurs différentes et qui sont les tribus perdues du peuple juif et qui s'installent et qui reprennent la langue hébraïque et s'intègrent dans une société complètement civilisée, qui reviennent donc d'un pays qui était dans le désert et qui arrivent là dans une civilisation moderne. Je crois que c'est une aventure importante et une gageure qui est un défi qui a été relevé grâce à cette volonté de faire qu'ont certains juifs d'Éthiopie.
Bien qu'ils ne soient pas forcément très très bien vus en Israël.
C'est vrai qu'il y a eu, vous savez, l'intégration est difficile. Il y a eu des grandes vagues d'immigration dans les années 50 des juifs d'Afrique du Nord qui a mal marché au départ, mais qui se sont intégrés. Il y a jusqu'à présent des problèmes de villes de développement où sont effectivement vivent les Israéliens aujourd'hui d'origine nord-africaine. Il y a eu, après la Glasnost, donc après la Perestroïka, en Union soviétique, il y a eu une grande vague où 900 000 juifs d'Union soviétique d'ex-Union soviétique arrivent, débarquent et sont intégrés. Vous savez, on demande à un juif soviétique, quand il descend avec un violon, où il ne peut pas amener son piano, mais la majorité des orchestres aujourd'hui sont d'origine juive. On a des petits Menuhin, on a des Rubinstein et on a des Perlman et d'autres.
Voilà, c'est un pays, somme toute, extrêmement divers à la fois dans ses origines, aussi dans l'expression politique, parce que la démocratie israélienne se met en scène d'une manière qui, ici, fait ressembler Israël à un pays extrêmement dynamique sur le plan du débat intérieur.
Oui, le débat est houleux et chaque matin...
Extrêmement houleux.
À la Knesset ou partout dans le débat, dans la presse, vous savez, on est un pays méditerranéen quand même. Et cette chaleur humaine, mais quand même, déborde parfois.
Mais au Proche-Orient, c'est assez inédit quand même.
Voilà. Non, je dirais que le Proche-Orient, c'est une poudrière toujours, hélas. Le Proche-Orient, c'est des questions de vie ou de mort. Le Proche-Orient, c'est savoir si demain, nos enfants pourront éventuellement, demain, sans problème, partir à l'école. Le problème, c'est de savoir, vous savez, Israël est le seul pays qui n'a pas de frontières. Israël est le seul pays qui n'a pas de capitale officielle reconnue par tous les États. Il n'y a pas d'ambassade à Jérusalem. Vous savez, c'est une ville unique qui éveille des mystères. Et on est émerveillé chaque fois. J'habite Jérusalem de ce cadre naturel, par ses couleurs, par ses lumières, par sa spiritualité. Donc, cette ville changeante, cette ville qui est là et qu'à chaque année, on disait « retournons à Jérusalem l'an prochain à Jérusalem », nous voulons effectivement, dans ce débat qui est un débat démocratique, je crois que certains disent que la démocratie israélienne est trop vivace même, et il faudrait la museler de temps en temps. Vous savez que la presse joue un rôle très important, parce que hélas, comme tous les pays, Israël est devenu, l'État est devenu un monstre froid, on cherche plutôt la carrière personnelle que l'intérêt de l'État, comme dans tous les pays. Il y a un fossé entre le leadership et le peuple.
Il y a un Israélien sur cinq qui vit dans la pauvreté.
Sous le seuil de la pauvreté. Il y a aussi ce million d'Arabes israéliens qui est un sixième donc, de la population qui vit aussi dans une certaine misère. Et donc tout cela est compliqué. 60 ans après... C'est vrai que ce n'est pas le pays de nos rêves aujourd'hui, Israël. Mais regardez cette fantastique épopée. 60 ans, il y a 60 ans, c'était un grand désert, il y avait des problèmes, il y avait rien, il y avait à peine 500 000 personnes, 600 000 personnes qui vivaient, qui venaient, c'était des rescapés de la Shoah. Et aujourd'hui, il y a des gratte-ciel, il y a des banques, il y a des plages. Il y a des yachts et les gens sont riches, la monnaie est forte. Et sur le plan militaire, c'est un des pays, C'est le pays du Proche-Orient le plus puissant. Et c'est pour ça que chaque fois, je me demande et je m'interroge concernant Kovadis Israël, c'est-à-dire dans le sens de l'avenir de l'État d'Israël. L'avenir de l'État d'Israël, nous souhaitons qu'il soit un avenir comme a décrit nos prophètes, c'est-à-dire avoir un centre spirituel, propager donc la littérature, propager la philosophie, créer. C'est pour ça que dans ce livre, il y a un philosophe contestataire ici qui était la conscience, qui était la conscience de notre État, qui est Yeshayahu Leibovitch, qui a montré effectivement que les Israéliens peuvent être à la fois religieux, porter une kippa, mais aussi être ouverts vis-à-vis des autres. Et il faut effectivement, il n'y a pas de séparation. Nous avons parlé de la religion, mais il n'y a pas de séparation entre l'État et la religion. On est juif avec la circoncision et on meurt juif avec, évidemment, dans ce cimetière, dans cette prière qu'on fait.
Mais donc, ce n'est pas Golda Meir qui s'interrogeait sur ce qu'est vraiment un juif et l'identité juive même?
Oui, c'est vrai. On est juif par sa mère, on n'est pas juif par son père. Donc, et les personnes qui sont venues, par exemple, d'Union soviétique, beaucoup ne sont pas juifs. Et je souhaite qu'on soit beaucoup plus tolérant. Vous savez, les juifs ne sont pas des messianiques. Ils ne sont pas des personnes aussi qui ont essayé de propager leur religion. Ils ne sont pas des missionnaires. Donc, la religion juive, aujourd'hui, nous sommes 6 millions et quelques en Israël. Nous souhaitons évidemment être plus sur le plan démographique et on a un certain problème vis-à-vis de l'environnement hostile. Et donc, nous pensons que laïcs et religieux, extrême droite et extrême gauche, les problèmes de l'État, le problème du sionisme, c'est-à-dire ce mouvement de venir en Israël et de créer donc son propre foyer en Israël même, dans la Terre Sainte et tout ça. Donc, c'est quelque chose, ce pays qui est à la fois, qui a été fait par miracle. C'est un grand miracle. Vous savez, en 1948, même la France était sceptique.
Et les États-Unis aussi. Hein.
Les États-Unis aussi. Donc, on a cru que ce pays va être étouffé dans l'œuf, déjà, en 48. Donc, 60 ans après, nous pouvons respirer et dire que, effectivement, grâce à Dieu, pour dire une expression hébraïque et israélienne, nous trouvons où nous trouvons, mais nous devons donner l'espoir. C'est là qui est important.
Freddy Etan. Évidemment, on ne peut pas aborder tous les sujets au cours de cette discussion, mais quand même, vous avez dit un mot important, le mot espoir, qui renvoie donc aux générations futures. Et sur ce point, vous avez aussi abordé la question démographique qui n'est pas négligeable. Sur ce point, j'aimerais savoir ce que vous pensez des jeunes générations et de leur volonté d'être unis à la cause avec la même vigueur que les géants que vous décrivez ici, avec la même vigueur dont ont fait preuve ces 18 qui ont fait Israël. Est-ce que les jeunes générations qui vivent à l'ère mondialisée, qui vivent avec d'autres préoccupations, peut-être moins militaires, moins viriles, allez, j'ose le terme, est-ce qu'elles sont engagées de la même manière? Est-ce qu'elles sont prêtes à défendre cette cause de la même manière?
Hélas, je dirais non. Parce qu'il y a un changement dans la politique et dans la société israélienne. Les pionniers d'hier ne sont plus pionniers aujourd'hui. La nouvelle génération est une génération qui préfère regarder son propre avenir et sa vie professionnelle. Et souvent, hélas, parce qu'on a des problèmes, le fardeau, si vous voulez, budgétaire de l'État d'Israël, le fardeau militaire surtout, est assez lourd. Et nous avons connu récemment une longue, longue, longue grève de l'enseignement secondaire, et qui a duré plus d'un mois. Donc, pour nous, c'est très important l'enseignement, la pédagogie. Et l'enseignement, aujourd'hui, les nouvelles générations parlent moins bien l'hébreu, d'une part, et d'autre part, aussi, pensent à leur propre avenir et non pas de l'État. Mais je dirais que une grande majorité des soldats, par exemple, qui sont jeunes, vous savez, il y a un service militaire obligatoire de 3 ans en Israël, et plus tard, ce qu'on appelle les milouim, sont les réservistes, doivent accomplir donc leur tâche un mois par an, jusqu'à l'âge de 40, 45 ans même, parfois. Donc, c'est un fardeau énorme, important. Alors, ceux-là, effectivement, quand Israël se trouve en détresse, quand Israël se trouve dans une situation difficile, eh ben, on va sous les drapeaux et on combattra. Mais de faire la comparaison avec la génération de 48, il n'y a pas de comparaison à faire. C'est tout à fait différent parce que la société aussi israélienne est devenue une société occidentale. C'est-à-dire, c'est la consommation. Et c'est une société de consommation par excellence dans tous les domaines. Sur le plan économique, les Israéliens vivent, ils sont une grande partie où vous avez mentionné qu'il y a une grande partie sous le seuil de la pauvreté, mais d'autre part, on vit beaucoup plus que nos moyens. Donc, on a ce qu'on appelle des débits en banque et on vit beaucoup plus dans ces sociétés de consommation.
Un peu à l'américaine.
Voilà, ça devient trop américain. Et aujourd'hui, l'Internet est important, mais je dirais que l'Internet est là, c'est facile. C'est plus facile aujourd'hui de faire une thèse ou d'écrire ou de faire... Avant, on s'appliquait, on recherchait beaucoup plus. On avait un certain savoir, une connaissance générale beaucoup plus approfondie qu'aujourd'hui, vis-à-vis des Israéliens, je parle. Mmh. Et donc, je pense qu'il est très, très important de revenir donc sur la pédagogie, l'instituteur de l'époque et l'écolier pour étudier, pour connaître par cœur des dates, même s'il le faut, des poèmes. Et donc... revenir à ce qu'était d'antan notre société et non pas une société moderne, automatique, pour avoir de bonnes notes seulement. Mais il faut avoir un savoir.
Que pensent ces jeunes générations d'un quotidien et de la coexistence? Vous avez employé le mot tout à l'heure de coexistence, d'un quotidien qui est marqué par une coexistence, pas la coexistence pacifique justement, une coexistence qui se fait souvent dans l'ignorance avec les Palestiniens et aussi, vous n'êtes pas sans ignorer les images qui sont véhiculées en Occident, avec celles des murs qui se hissent, qui s'érigent, en particulier à Bethléem, avec un mur de 8 mètres de haut, une clôture électrique qui sépare Bethléem arabe d'Aroma, par exemple, il y a la colline d'Aroma juste en face, et toute la politique qui consiste à miter le territoire pour empêcher que Jérusalem devienne un jour une capitale palestinienne. Est-ce que cette politique-là, qui consiste quand même à mettre des garde-fous un peu partout, elle va perdurer? Est-ce que les jeunes générations ont envie de continuer dans cette politique de sauvegarde de l'État et puis de limitation du peuple palestinien dans des bantoustans?
Écoutez, le problème avec les Palestiniens est un problème beaucoup plus complexe.
J'ai dit peuple palestinien, mais je ne sais pas si vous souscrivez à cette
Non, mais je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, on est cloîtré, on est dans des murs, dans des ghettos, je dirais, et on est cloisonné donc dans certaines régions. Donc ces murs ont été construits pour une seule chose, c'est pour la sécurité de l'État d'Israël.
Et c'est efficace,
depuis,
de fait.
Depuis, effectivement, qu'on a construit ce mur, il y a moins d'attentats terroristes. C'est une preuve. Les chiffres le démontrent. Que faire? Je crois que ces murs doivent être éphémères. On doit les briser demain, on doit les casser. On doit effectivement, parce que les barrières, les murs, les haies créent des haines. Et effectivement, nous voulons coexister. Coexister avec nos voisins dans l'intérêt d'Israël. Parce qu'il ne s'agit pas de laisser de l'autre côté de la barrière, pour ne pas employer un terme de la guerre froide, de l'autre côté du rideau de fer, des personnes cloisonnées, des personnes ignorantes, des personnes qui ne connaissent pas leurs propres voisins. Et moi, je m'interroge et j'espère que demain, les Israéliens, le leadership israélien, donnerait à cette génération de mieux apprendre, non seulement la langue arabe, pour mieux connaître l'adversaire, entre guillemets, pour mieux connaître donc le peuple palestinien et le peuple arabe, c'est connaître effectivement sa civilisation. Et dans l'enseignement, aujourd'hui, on préfère l'anglais. On préfère d'autres langues que de parler arabe.
Ça veut dire que les jeunes pensent plutôt à une vision mondialisée, planétaire, au-delà des frontières, alors que précisément en interne, on met des frontières.
C'est ça le paradoxe. Il y a une asymétrie, si vous voulez, dans l'espoir des jeunes qui veulent effectivement franchir les frontières, aller au-delà des océans et des continents, conquérir un peu Los Angeles, conquérir pour les artistes Hollywood, partir un peu partout en Europe, dans les grandes universités, tout ça. Mais d'un autre côté, en retournant en Israël, se trouve dans une petite province, quoi. C'est-à-dire de revoir donc les murs et de revoir qu'il n'y a pas ce dialogue qui est un environnement. Nous voulons casser les frontières. Nous voulons plus de frontières. Nous voulons créer donc un Proche-Orient qui soit similaire à l'Europe, c'est-à-dire l'Europe de Monet, à l'Europe qu'on a créée du marché commun à l'époque en 1958. Donc à ce Proche-Orient, sur le plan économique, comme sur le plan social, comme sur le plan du va-et-vient, comme sur le plan de la libre circulation, serait un Proche-Orient vivace, un Proche-Orient qui demain pourrait nous donner un espoir. Parce que l'hymne national israélien s'appelle Atikva, qui veut dire espérance. Et pour nous, c'est important, cette espérance, parce que les messages doivent être de la part des chefs d'État et de la part des hommes politiques, c'est des messages d'espérance, des messages de, effectivement, de donner le maximum, cet espoir-là aux nouvelles générations pour construire une nouvelle société et une nouvelle coexistence avec nos voisins.
Freddy Etan, j'aimerais que l'on conclue cet entretien par un regard sur la société française et sur la façon dont la communauté juive vit en France. On dit que des milliers de membres de cette communauté partent pour Israël, font leur aliya. Est-ce en raison des tensions communautaires? Les juifs se sentent-ils encore en sécurité ou bien sont-ils en danger en France, Freddy Etan?
Je ne crois pas qu'il faudrait exagérer sur la présence, disons, ou le danger qui existe pour les juifs de France. Il n'y a pas de danger. Et je suis convaincu que les cris de liberté et de fraternité vis-à-vis des juifs français depuis toujours, qui sont là depuis Saint-Louis, sont là les juifs de France. Ils sont là depuis toujours et on se souvient des grands savants comme Rachi à Reims ou d'autres et qui ont créé donc cette nouvelle société, cette nouvelle communauté, mais c'est aussi cette pensée juive. Ce qui est important, vous savez, il y a aujourd'hui, on estime entre 500 000 et 600 000 juifs en France. C'est une communauté vivace et qui vit et qui est française d'abord. Et je crois qu'il est très bien intégré. Il y a eu la grande vague d'immigration qui est venue d'Algérie, après l'indépendance donc d'Algérie, qui s'est intégrée aussi. Il y avait les Juifs d'Alsace, les Juifs donc de Lorraine, qui se sont intégrés en France. Je ne crois pas, et il ne faut pas...
Mais le visage de la France a changé.
Oui, non, mais même en dépit de la présence musulmane assez forte par rapport... Parce que au départ, dans les années 70-80, les Juifs étaient la première communauté de France. Donc aujourd'hui, avec on ne sait pas combien, mais je suppose 6 à 7 millions de musulmans, il y a effectivement une importance qui est là. Mais la différence, c'est que les Juifs sont bien intégrés. Les Juifs ont une constitution, ils ont un consistoire créé d'ailleurs par Napoléon. Ils ont un CRIF qui est un conseil représentatif. Il y a des communautés. Les Juifs n'ont jamais, par exemple, été dans les banlieues, n'ont jamais manifesté contre la République, n'ont jamais fait tout pour porter le voile contre les lois républicaines. Au contraire, je pense que la communauté juive de France est une communauté paisible qui cherche à coexister avec les musulmans, qui cherchent à coexister avec tout le monde, et ils sont avant tout français. C'est vrai qu'il y a de temps en temps, après certaines émeutes ou certains actes antisémites qui existent, hélas, en France et en Europe, il y a certains qui veulent partir, qui veulent revivre avec leur famille qui sont en Israël. Mais c'est pas une grande majorité. Il y a environ, il y a peut-être des fois 1500, 2000, 3000 juifs dans des grands cas par an qui s'installent en Israël. Donc c'est une petite minorité. La grande majorité, la majorité écrasante, la majorité silencieuse des Français sont avant tout français et sont fiers d'être français.
Merci beaucoup, Freddy Etan. Ce sera votre Dernier mot, pour conclure notre entretien, je rappelle bien sûr les 18 qui ont fait Israël. C'est aux éditions Alphée Jean-Paul Bertrand, dans la collection Portraits et témoignages. Freddy Ethan, vous êtes directeur des affaires européennes à l'Institut des affaires publiques à Jérusalem, ancien ambassadeur d'Israël. Et comme on l'a dit au début de cet entretien, vous avez une triple carrière à la fois d'universitaire, de diplomate et de journaliste. Merci d'avoir été avec nous pour Canal Academy et pour parler de ces 18 qui ont fait Israël dans le cadre bien sûr du 60e anniversaire de la fondation de l'État d'Israël. Merci.